La fin du Wittgenstein, elle est très bonne pour mettre en exergue de cette petite conversation, parce que c'est un peu ce que je ressens. C'est très difficile de parler de peinture, de ma peinture en tout cas, parce que je ne sais pas trop comment en parler, parce que ma peinture, c'est déjà un langage en soi. Et donc, c'est parler déjà de mon langage, ça superpose deux langages, et je pense que le meilleur langage, c'est celui où il n'y a pas de parole, justement, enfin, c'est celui de la peinture, quoi. Et je pense que, voilà. Alors, cette petite phrase de Wittgenstein, c'est qui va très bien, je pense. Et ce qui peut être montré ne peut être dit. Voilà. Et ça, c'est tout à fait ce que je pense. C'est pour ça que j'aime pas parler. Enfin, c'est pas que j'aime pas parler de ma peinture, mais je ne sais pas parler de ma peinture. C'est quelque chose que je construis avec le temps, pendant des heures et des heures. C'est sur des séries et toutes ces choses. Ben oui, c'est sur le temps, c'est sur la longueur, et c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et en parler, c'est difficile, quoi. C'est des choses que je ressens qui se font petit à petit. C'est un travail d'improvisation d'un certain côté. Je commence sur une petite idée et au fil du temps, ça se met sur le papier parce que je travaille que sur le papier. Ma peinture, enfin, je la définirais comme une abstraction intime. Voilà, c'est exactement ce que je pense. C'est quelque chose de très intime qui croise des tas de choses que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre, que je mets sur mes peintures. Mais c'est très discret, hein. C'est des choses. Enfin, justement, c'est intime, donc personne ne peut bien rentrer dedans, enfin, d'un certain côté, quoi, évidemment. Parce que quand je montre une de mes peintures mettons, à une personne, ben, elle va voir ce qu'elle a emmagasiné en background, en elle-même, quoi. Et souvent, personne ne verra la même chose, quoi. Et ça, c'est ce que ça m'intéresse d'ailleurs, parce que on peut d'ailleurs faire connaître un petit peu ce que pense, enfin, ce qu'est la personne en fonction de ce qu'elle dit, quoi. Et c'est très drôle d'ailleurs de voir. Il y a des gens qui sont totalement aux antipodes il voit dans une peinture des choses que j'ai jamais vues d'ailleurs, évidemment, ce qui est normal. Et eux, ils voient ce qu'ils sont, quoi. Et dans une peinture, on peut dire que c'est un miroir. Un miroir de la personnalité du peintre et un miroir de la personnalité du regardeur. Et comme le disait Duchamp, c'est le regardeur qui fait la peinture. Je peux travailler à partir d'un musicien. Voilà, mettons, j'ai choisi certains musiciens, pas n'importe lesquels. Moi, déjà, c'est des musiciens contemporains, ou du moins qui sont nés, y a pas, qui sont du 20e, fin du 20e ou début du 21e, hein, déjà. Bon, ma peinture, c'est une peinture contemporaine déjà. C'est une peinture abstraite déjà. Bon, c'est dans l'abstraction que je me sens le mieux. Parce que l'abstraction, c'est quelque chose qui. On montre. Chacun, je vous dis, voit un peu ce qu'il veut. Enfin, l'abstraction est très ouverte, je trouve, par rapport à une peinture plus réaliste qui ferme. Là, c'est totalement ouvert. C'est des peintures qui sont blanches, souvent, très blanches. Enfin, l'année dernière, enfin, depuis quelques années. Et justement, c'est dans cette blancheur que je trouve, justement, une corrélation avec la musique. Pour moi, la musique est transparente. Et la musique, la musique est plus abstraite que la peinture, pour moi. Parce que la peinture, c'est quand même matériel. C'est fait avec la couleur, des pinceaux, un papier, enfin, tout ça. Alors que la musique, on la voit pas. Elle se diffuse autour de nous. Et c'est pour ça que, comme je travaille sur la musique, j'ai choisi la blancheur qui est la plus proche de cet indicible de la musique. Voilà. Donc pour en revenir, je travaille avec souvent, enfin, je travaille, mes idées démarrent à partir d'un musicien que je choisis parce qu'il correspond à ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le son, c'est les ondes. qui tourne autour de nous. Et par exemple, on va prendre l'exemple de John Cage. John Cage, il a été passionné par le son. D'ailleurs, il y a une phrase de John Cage que je vais vous délivrer. Cette phrase, c'est « Je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer. Le problème avec les sons, c'est la musique. » Et John Cage, il a voulu mettre son travail. C'est dans cette phrase que c'est les sons qui nous entourent, qui sont très passionnants. Et ce qu'il nous dit, ouvrez votre fenêtre et écoutez ce qui se passe dans la rue. Et apprenez à aimer tous ces sons. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait une vision de la musique, du son qui est nouvelle. Enfin, je veux dire, il a mis le doigt sur cette particularité du son. Et ça se rapproche aussi de... Enfin, John Cage était très intéressé par la philosophie extrême orientale. Et on retrouve aussi dans son travail, justement, qui... souvent c'est une philosophie du peu aussi dans son travail, ce que je recherche dans ma peinture aussi. Et Cage aussi, il y a une autre notion qui est intéressante dans son travail, c'était l'aléatoire. Il a composé beaucoup avec le hiking, justement, et c'est ce livre chinois de divination qui lui a permis de tirer à partir des hexagrammes. Pour la composition de certaines de ses œuvres. Et ça, c'est très intéressant aussi que l'artiste ne contrôle beaucoup moins son œuvre. Et c'est justement que j'en revenais souvent à certaines peintures que je réalise. Souvent, ça part sur une petite idée et ça se développe petit à petit, mais c'est pas au départ fixé. Qui m'intéresse. Je travaille beaucoup sur le carré. Aussi, ça, pourquoi le carré ? Parce que le carré, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas d'horizontale. Et c'est ce qui convient le mieux à l'abstraction, je pense. Parce que quand on a un horizontal, on pense à... Une horizontale, on pense à, justement à la mer, à l'horizon, enfin, un paysage. Alors que le carré, on n'a ni hauteur, ni... Enfin, voilà, c'est ce qui convient très bien à l'abstraction, je crois. Et je peux passer de nombreuses heures, c'est-à-dire, je sais pas, sur un petit carré de 27 sur 27, je peux passer, mettons, 25-30 heures, enfin, ça peut arriver. Hein. Je pars sur une musique ou sur un son, où je vais exprimer un son sans musique, je veux dire, un son que j'ai inventé aussi peut-être. Et voilà, alors ce que je passe beaucoup de temps, mais dans mon esprit... C'est ce que j'ai mis sur le papier, ça n'a pas de durée. Disons que la durée, ça serait une seconde, par exemple, ou une fraction de seconde. Donc, mon travail aussi, je pense aussi que c'est comme si je passais la musique sous un microscope et que je photographie un instant qui passe, quoi. C'est un peu ça, mon idée de mon travail. Sur un musicien, par exemple, j'ai travaillé, entre autres, bon, je parlais tout à l'heure de John Cage, mais j'ai travaillé aussi avec Giacinto Chelsi, ce compositeur italien, qui était d'ailleurs, il y avait une correspondance un peu avec Cage, il s'écrivait, il se connaissait, quoi, tout ça. Et Chelsi, il avait une phrase aussi qui était assez intéressante, d'ailleurs qui correspond bien à notre... Petite conversation, c'est le son est le premier mouvement de l'immobile. C'est là le début de toute création. Et ça, c'est une phrase de Chelsi qui m'a beaucoup intéressé. C'est une des phrases les plus connues, je pense, de Chelsi d'ailleurs, qu'était quelqu'un qui ce qu'il aimait, c'était s'immerger dans le son. Et sa musique, c'était, il travaillait le son de l'intérieur. Et le son, il le voyait plutôt d'une façon. Comme un globe, vous voyez, comme s'il était à l'intérieur d'un globe de son. C'était ça un peu son idée. Donc Chelsi, ça m'a inspiré parce que c'était quelqu'un qui travaillait sur le son. Et par exemple, il y a un autre musicien français décédé il y a quelques années quand même, mais il était très jeune, il est décédé, il avait 40, plus de quarantaine d'années. Là. C'est Gérard Griset. Et Gérard Griset, il a fait partie de ces musiciens français de l'école spectrale. de musique. Et il était justement, pendant 2 ans, il était à Villa Médicis à Rome, à l'époque où Balthus était le directeur. Et là, on lui a parlé de Chelsea, qui vivait à Rome, et avec Tristan Murail et d'autres. Ils sont allés voir Chelsea, qui était déjà un monsieur un peu âgé. Et là, ils ont parlé justement, eux, ils travaillaient sur le son aussi, Griset, Murail, tout ça. Et ils ont découvert chez Chelsea un peu leur père. Et Chelsea était très peu connu en France. Et c'est quand ils sont revenus en France, ils l'ont fait découvrir au public français. Donc j'ai fait un travail aussi sur Griset. Sur Griset, en partant. D'ailleurs, les peintures, les musiciens, je pense qu'il y a une espèce de boucle qui se fait. Et on commence avec l'un, et après on passe à un deuxième, un troisième. Et c'est comme ça que se crée aussi ma peinture. Si je pars de John Cage, après j'arrive à Chelsea, après je passe à Griset, et puis de Chelsea, je peux faire un pont avec Morton Feldman aussi, qui a travaillé sur le son. Et d'ailleurs, avec Morton Feldman, c'est peut-être le musicien qui correspond le plus à ma peinture. Parce qu'il travaillait beaucoup sur la transparence musicale. Et pour lui, le son, il était toujours en surface. Et donc là, j'ai travaillé pas mal de peintures sur Feldman, qui est un musicien qui est très, très passionnant, très intéressant. Et par exemple, une petite anecdote, là, je suis allé à Paris à la fin de l'année dernière. Il y avait un concert Feldman qui était donné à l'église Saint-Eustache. Et c'était une de ses compositions, il s'appelle For Philip Guston, qui est un peintre d'ailleurs américain, qui était ami de Cage, enfin tout ça, on s'en retrouve. Et cette petite composition de Feldman durait tout simplement que 4h30, non-stop. Alors c'était quand même, c'est fascinant parce que là on se trouve aussi immergé dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et justement, ils avaient mis des chaises longues tout autour de l'orchestre parce que il faisait froid, alors on avait des couvertures. Enfin, c'était pendant 4h30, c'est quelque chose d'assez fascinant, quoi. C'est vraiment une expérience, quoi. Et c'est une expérience physique, enfin, qui est fascinante, quoi. Donc, je parlais de Cage, et là, on parlait de Feldman qui avait écrit cette composition pour son ami Philip Guston, le peintre. Mais justement, ce qui m'a intéressé aussi avec tous les gens, les compositeurs des années 50, 60 à New York, qui ont l'école de New York, justement, c'est qu'ils avaient des rapports très, très proches des peintres. Il y avait une émulation qui se faisait entre ces compositeurs et les peintres. Par exemple, le 433 de Cage, c'est sa composition la plus fameuse, la plus historique, il date de 52, je crois, il l'a faite parce qu'il avait vu les white paintings de Rauschenberg. Ils travaillaient tous à New York en même temps, et c'est à partir de ces peintures blanches de Rauschenberg qu'il a eu l'idée de faire son 433. Donc tout se recoupe, enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est ces boucles qui se forment entre peinture et musique. Je pense, oui, qu'il y a une certaine similitude, une certaine correspondance. Puis, c'est un peu ce que je recherche, quoi, d'être au plus près de l'expression musicale d'un compositeur. Il y a un vocabulaire qui se crée, mais il est moins important, je pense, que dans la musique, quand même, il y a une notion mathématique, quand même, un compositeur vraiment qui écrit d'une façon, qui écrit sa musique. Parce que, comme je dis, il y a d'autres musiciens, Cage, tout ça, il a travaillé le hiking, donc c'était justement pour sortir justement de cette notion de composition très stricte, quoi. Ce qui l'intéressait, c'est plutôt Le hasard, quoi. Tout à fait. Et donc, pour parler de la peinture, voilà, y a un certain vocabulaire qui se crée, parce que je travaille beaucoup sur les lignes. C'est la ligne, il y a une ligne musicale, et pour moi, la ligne, c'est ce qu'il y a de plus abstrait. Cette notion de ligne, pour moi, c'est l'abstraction dans la peinture. Et donc, il y a un certain vocabulaire qui se crée aussi dans la notion du choix des couleurs. Par exemple, moi, je choisis très très peu de couleurs. Moi, je travaille dans le blanc surtout, un petit peu de jaune, mettons, certains jaunes, oui, ou du beige. Mais enfin, le beige, je l'ai un peu abandonné. Là, ça fait, c'est par période aussi, vous voyez. Il y a une période où on est. J'ai travaillé dans les peintures noires aussi, vous voyez, ça dure combien, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, le blanc, c'est ce qui me correspond le plus, parce que j'aime bien cette notion de, à travers le blanc et la musique, qu'il y a une notion d'air aussi, de bien respirer. Et c'est, j'en reviens un peu à ce que je disais, que je voyais la musique comme quelque chose de très transparent, et c'est le blanc qui, pour moi, c'est la couleur de la transparence quand même. Et le jaune aussi, c'est la couleur un peu. Enfin, c'est un jaune très, très peu marqué quand même. C'est la couleur du soleil, c'est la couleur de la vie aussi. Voilà. Souvent, quand je prends un compositeur comme correspondant, j'écoute le maximum son œuvre, puis j'essaye de comprendre, je lis aussi s'il y a des livres qui existent sur un musicien. Par exemple, Chelsea, il y avait très peu de livres il y a quelques années en France. Et là, c'est Actes Sud qui a traduit 3 livres au moins de ses écrits. Donc là, je me suis plongé dedans, et puis c'est comme ça que j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Par exemple, j'ai fait une série sur sa signature. La signature de Chelsea, c'est un cercle avec un trait dessous. C'est très zen, ça correspond bien à ce qu'il a voulu exprimer dans sa musique. Et d'ailleurs, les musiciens qui m'intéressent sont souvent les musiciens qui ont eu un rapport avec l'Extrême-Orient, comme Cage avec Suzuki, avec le Zen. Et Chelsea aussi, il s'est intéressé beaucoup au Tibet. Il a fait à Rome, il avait, je crois... il avait ouvert, plutôt avec sa compagne, un centre de yoga. Il y a toujours un rapport souvent avec. Parce que pourquoi ? Parce que ce qui m'intéresse, c'est la notion du peu. Et justement, ça correspond bien à l'esprit asiatique. L'architecture d'architectes comme Tada Ando ou d'autres, c'est une architecture qui est basée sur le peu, sur la ligne. C'est le béton, il y a très peu de choses et c'est ce qui m'intéresse. Moi. On retrouve la phrase de Miss van der Rohe qui dit « Less is more ». Et ça, c'était la phrase d'un de mes peintres préférés. En France, c'est Jean de Gotex, qui était aussi très inspiré par l'Asie, par l'Orient, par la philosophie orientale. Donc tout ça, ça se recoupe. Il y a tous des univers qui passent de l'un à l'autre. Moi, par exemple, au départ, j'aimais beaucoup le surréalisme. J'aimais beaucoup les écrits d'André Breton. Et par exemple, un des premiers collectionneurs de Jean de Gotex, c'était de Breton. Donc tout se retrouve, vous voyez, il y a une voie qu'on continue, au fil du temps, on rencontre des artistes, dans les écrits, tout ça, et voilà, c'est comme ça qu'on construit son travail. Voilà. Mon travail est basé sur le temps aussi, quand même. Est-ce que par exemple, j'ai fait une série, mais qui est tout à fait différente. Enfin, c'est un travail que j'aime beaucoup, mais c'est un travail qui est tout à fait différent de mon travail sur la peinture. Mon travail sur la peinture, c'est mon travail le plus important. Mais parfois, j'aime bien aussi travailler sur d'autres sujets que la musique ou le son. Et par exemple, j'ai fait un travail sur le bol. Mais le bol, c'est le bol asiatique, c'est le bol japonais. C'est le bol, au Japon, ils appellent ça Oan. Oan, c'est le bol, mais le bol, c'est pas le bol de cérémonie, c'est le bol un peu usuel. Et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était à partir d'une image d'un bol que j'ai mis souvent, parfois sur des formats horizontaux, parfois, que j'ai décentré. J'ai décentré ce bol suivant le zen, le zen, c'est pas toujours le symétrique, c'est le dissymétrique souvent. Donc ce bol est souvent que j'ai travaillé d'ailleurs sur un papier très particulier. C'est différents papiers qui viennent du Népal. Donc là aussi, il y a un rapport avec l'Asie aussi. Ce sont des papiers japonais aussi, tous les papiers asiatiques qui m'intéressent beaucoup. J'aime beaucoup le papier. Je travaille que sur le papier. J'ai jamais travaillé sur une toile parce que sur une toile, le problème que j'aurais, c'est que je travaille avec des tout petits pinceaux. Je travaille avec la loupe et ça ne pourrait pas se rendre sur une toile. Même si la toile est très fine, avec un petit pinceau, c'est pas pareil quand même. Puis je travaille à la gouache. Et j'aime bien justement que l'eau aussi qui intervient dans le travail. Oui, l'eau amène aussi une diffusion sur le papier. Enfin, voilà. Et donc, pour en revenir à cette série Oan sur le bol, j'ai créé des bols. C'est toujours le même bol, c'est toujours le même, qui est vu sous un angle frontal. C'est-à-dire que. Il est vu, c'est une image du bol plutôt, c'est une image abstraite. Il ne faut pas voir un bol comme un bol qu'on pourrait photographier ou peindre. Non, non, pas du tout. C'est une image, c'est juste une image frontale du bol. Et cette image, je l'ai multipliée à l'infini, si je puis dire. Et parce que ce que j'ai voulu montrer aussi, c'est le temps qui passe. Donc j'ai mis plus ou moins. C'est un bol qui est plutôt gris. Ou dans des terres très ternes, si vous voulez. Il y a du blanc aussi, un petit peu de jaune parfois, mais ça, voilà. Mais plus je mettais de blanc, et moins ou plus je mettais de gris, c'était pour traduire la lumière, le temps qui passe sur le bol. Donc il fallait en voir une série au moins de 5 pour comprendre vraiment l'intérêt de la chose. C'est le temps qui passe. Et le temps qui passe se retrouve sur mes carrés, sur mes peintures. De musical, parce que là je traduis aussi le temps que je passe aussi. Il y a un peintre français, enfin qui habitait en France, mais enfin c'était Roman Opalka, et Opalka il a passé toute sa vie à écrire, il est parti d'un certain chiffre, et toute sa vie il a passé à écrire la continuité de ce chiffre sur des toiles de même format. Et il est mort, il était, je ne sais pas combien, c'était un nombre invraisemblable, qu'il écrivait tous les jours sur une toile. Et ça, c'est fascinant, ça aussi. Ouais.
Pourtant, le spectateur, lui, c'est instantané.
Oui, le spectateur, il a une vision tout à fait instantanée. Mais ce qui serait intéressant pour le spectateur aussi, c'est qu'il se pose la question, combien de temps le peintre a mis pour réaliser ça? Et là, s'il pose cette question, il va mieux comprendre mon travail, quoi. Voilà. Et oui, c'est l'instantanéité du regardeur, la phrase de Duchamp, c'est le regardeur qui fait la peinture. Mais il faut, quand on est devant une de mes peintures, il faut passer longtemps, je pense, sur les peintures musicales, il faut passer du temps, parce que, et il faut. Petit à petit, on entre dans la peinture. Mais si on le regarde avec un regard distrait, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est quelque chose on doit aller à l'intérieur, quoi. C'est un peu aller à l'intérieur du son de Chelsea, du son de Cage. Enfin voilà, c'est un peu pareil. Il faut partir à l'intérieur, quoi. Quand je fais une peinture, c'est juste un temps très bref, une seconde. Alors qu'évidemment, dans une œuvre musicale, c'est le temps qui défile. Mais le temps qui défile, il faudrait le réduire à une seconde. Et c'est ce que je fais un peu dans mon travail.